Mets-moi à vigilance. Une émission de Claude Boschurberg. Chers amis, bonsoir. Avant de laisser la parole à mes invités ce soir, Yves Placero, juriste, expert en minorité nationale, président du groupement pour les droits des minorités, qui nous vient ce soir avec un fort beau livre, « L'Europe et ses minorités », publié aux presses universitaires de Grenoble, accompagné de mon ami Henri Battener, président du Farmunt, président de Sauvegarde et Mémoire. Je voudrais vous faire part de quelques informations concernant les activités de la mémoire. Alors tout d'abord, sous l'égide du Cercle d'études de la déportation et de la Shoah Amicale d'Auschwitz et de l'Union des déportés d'Auschwitz se tiendra le 13 juin à 14h30 au siège de l'UDA, 39 boulevard Beaumarchais, la projection du film « Les régiments ficelles, des héros dans la tourmente de 1940 » de Robert Mugnero, présentation par Marie-Yvonne Brinjouègue, avec la participation de François Schulman, co-président de l'Union des engagés volontaires anciens combattants 1939-1945. Le 18 juin, à l'appel de la municipalité du 11e, se tiendra la cérémonie commémorative du 73e anniversaire de l'appel du général de Gaulle, et cela se tiendra à la mairie du 11e, 12 place Léon Blum. Le 23 juin, à midi, au mémorial de la Shoah, se tiendra la lecture des noms des déportés juifs du convoi 55, précédé par une introduction historique de Serge Klarsfeld. Si vous voulez participer à cette lecture, il suffit de s'inscrire sur place, le jour même, au mémorial, auprès de Régine Lippe ou de Sarah Wojakowski. Vous le savez également, les œuvres de Shlomo Seilinger, survivants des camps nazis, sculptures, dessins, sont exposés actuellement jusqu'au 29 juin prochain à la galerie Bernheim Jeune, 27 avenue Matignon ou 83 Faubourg Saint-Honoré dans le 8e. Enfin, sachez que cette émission, Mémoire et Vigilance, dispose d'un site permettant de réentendre les diffusions ou les diffusions de nos émissions. Pour cela, il suffit de cliquer sur mémoirevigilance.com. Voilà, je reviens à mes invités ce soir, auxquels je souhaite la bienvenue, et en particulier pour saluer la publication de cet ouvrage, fort savant, il faut le dire, « L'Europe et ses minorités » de Yves Placero, publié aux presses universitaires de Grenoble. Alors, cher Yves Placero, peut-être pour lancer le débat et pour, au fond, donner un petit peu de le tempo de cet ouvrage, dans l'introduction, vous vous appuyez sur une réflexion de Pierre Rosanvallon, qui est donc professeur au Collège de France, et qui dit la chose suivante. Il dit « Le peuple ne s'appréhende plus comme une masse homogène ». Il s'éprouve plutôt comme une succession d'histoires singulières, une addition de situations spécifiques. C'est pourquoi les sociétés contemporaines se comprennent de plus en plus à partir de la notion de minorité. La minorité n'est plus la petite part, entre guillemets, devant s'incliner devant une grande part. Elle est devenue une des multiples expressions diffractées de la totalité sociale. Alors ce qu'on apprend avec votre ouvrage, c'est que les temps ont changé. Et que cette notion de minorité est devenue infiniment complexe.
Oui, elle s'est imposée de façon incontournable depuis quelques années et elle s'est complexifiée considérablement. Pourquoi s'est-elle imposée ? Parce que les minorités ont de plus en plus fait parler d'elles. Et la complexification est venue du fait que si autrefois on avait quelques minorités diasporiques et beaucoup de minorités territoriales, les Bretons, etc., je peux parler de la France, on a aujourd'hui de grandes quantités de minorités issues de l'immigration, nombreuses et parfois agitées. Par conséquent, ça a à la fois enrichi le débat, mais aussi considérablement compliqué les choses.
Alors, agitation aussi, il faut le dire, et on le voit dans votre ouvrage, enfin vous le pointez, sur fond de crise économique mondiale, ce qui ne facilite pas les choses. Et peut-être êtes-vous un peu pessimiste à la fin ? tout à la fin de cet ouvrage. En fait, bon, pensez quand même à certaines menaces qui pourraient venir précisément en rapport avec cette situation économique particulièrement grave.
Mais les minorités ont toujours été les premières victimes dans les périodes de crise économique. C'était, qu'on se souvienne des années...
Ça, c'est une constante de l'histoire.
30,
les Juifs en savent quelque chose.
Les Juifs, c'est ce que j'allais dire. À l'heure actuelle, ce n'est pas pour l'essentiel les Juifs, mais il y a beaucoup de minorités, notamment issues de l'immigration, qui sont dans une situation très, très difficile, très inconfortable. Et je pense que ce à quoi vous faites allusion, c'est un autre aspect de la question, c'est la question du réchauffement climatique et de peut-être de l'arrivée, non plus prévisible, mais actuelle,
de flux migratoires.
De masses de réfugiés climatiques qui vont se pousser les uns les autres, en particulier à partir du Bangladesh. Et là, il est manifeste qu'on aura un gros problème, parce que ce ne sera plus des petites quantités. Ouais. Hein.
Alors, oui, Henri Bettner.
Les minorités, à l'époque de mon époque à moi, quelles qu'elles soient, juives, portugaises, espagnoles, n'étaient pas violentes. Elles n'avaient pas les mêmes réactions qu'aujourd'hui.
Absolument. Nous sommes dans un monde qui est devenu plus village planétaire et les violences importées sont de plus en plus fréquentes. Effectivement, on peut trouver tout plein d'exemples de menaces potentielles de minorités importées, c'est clair, oui.
Oui. Alors peut-être un mot avant d'entrer plus avant dans l'ouvrage, dans votre recherche, c'est vraiment une recherche, encore une fois, savante. Bon, c'est la première fois que vous rencontrez Henri Bettner, j'en suis très heureux, et du reste, je suis heureux que... tu vas avoir un interlocuteur pour, effectivement, les conférences que tu organises au Farbrand, et Dieu sait si elles sont nombreuses toute l'année. Et donc, avec Yves Placero, je pense que tu vas intéresser ton auditoire. En présence d'Henri, est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu comment vous êtes intéressé, je dirais, à cette partie de l'Europe, et en particulier les pays baltes? Et il faut quand même dire qu'on s'est vu à plusieurs reprises dans cette émission, avec Henri Minzeles en particulier, et rappeler comment, en fait, vous êtes arrivé, quel est votre itinéraire qui a fait que vous êtes reconnu aujourd'hui comme l'un des grands spécialistes des pays baltes, et en particulier de la Lituanie.
Oui, alors ça nous éloigne un peu du...
Oui, non, on va y revenir. Mais c'est simplement parce que c'est la première fois que vous rencontrez Henri Bettner. Et...
Oui, là, c'est pas simple. Aller expliquer pourquoi on est devenu quelque chose, c'est pas...
C'est pas grave, mais vous n'appartenez pas à notre communauté.
C'est quand même un peu la faute des Juifs, je dirais.
Oui,
parce toujours que... responsable.
Toujours responsable, oui.
c'est largement... d'abord, j'ai une imprégnation juive d'enfance pour des raisons de voisinage amical, familial, etc. Et je me suis toujours intéressé aux cultures juives et tout particulièrement aux cultures ashkénazes et particulièrement aux cultures, à la culture yiddish. Et j'ai été très tôt fasciné par la richesse de la culture litvaque. À tous égards, au point de vue politique, artistique, etc. Et d'autre part, c'est autre chose, mais les deux convergent. J'étais fasciné par l'aptitude de survie des peuples baltes face à la Russie et à l'Allemagne au cours des siècles. C'est un phénomène pour tout amateur de minorité qui est extrêmement interpellant. Et les deux ont convergé, ce qui fait que je me suis intéressé à la fois aux Baltes, aux Juifs de la zone balte et aux relations entre les uns et les autres qui, comme vous le savez, n'ont pas toujours été mauvaises, mais ont parfois été très difficiles. Donc voilà. Et j'ai eu l'occasion d'y circuler beaucoup parce que j'ai travaillé dans le domaine des transferts de technologies. J'étais donc un avocat spécialisé dans ces questions et j'ai beaucoup circulé dans cette région, énormément circulé dans cette région, après y avoir d'ailleurs fait ma thèse. Donc ça m'a facilité les choses. Voilà.
Alors justement, bon, toute cette évolution, elle se déploie sur, on peut dire, des décennies maintenant. Bon, vous avez pu faire le point, en quelque sorte, des différentes étapes. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Parce que, bon, je le sais aussi par ailleurs, par Henri Minzeles, qui vient assez régulièrement aussi dans cette émission. Mais où est-ce qu'on en est, effectivement, de ces relations aujourd'hui avec les communautés juives de ces pays, en particulier, je pense, à la Lituanie, puisque, en fait, on sait que cette communauté a payé un lourd tribut durant la période de la Shoah.
90% voilà. des Juifs de Lituanie ont été exterminés, et avec, dans une assez large mesure, l'assistance de populations locales.
C'est ça.
Aujourd'hui, la population juive de Lituanie n'est pas très clairement identifiée en quantité. On avance toujours le chiffre de 5000. Il me semble qu'il est un peu trop court. Je pense qu'il y en a plus. Dans l'ensemble, au plan de la vie quotidienne, il n'y a pas vraiment de problème. Mais il y a quand même deux tendances lourdes. Une tendance à l'antisémitisme qui n'a jamais complètement disparu et qui manifeste chez certains skins notamment, qui sont utilisent clairement l'antisémitisme comme instrument. Ça, et d'autre part, un certain antisémitisme au sein de la population. Bon, je ne dirais pas beaucoup plus lourd qu'ailleurs, mais bon, il y en a quand même. Et puis, d'autre part, il y a une tendance au niveau de l'État qui est assez dichotomique, puisqu'ils font beaucoup pour aider la communauté, pour restaurer les cimetières, etc. Mais en même temps, un certain nombre de politiques véhiculent des théories un peu dangereuses autour du double génocide et d'un certain nombre de fantaisies de ce type qui évidemment irritent à juste titre les juifs locaux. Donc c'est une évolution complexe, comme souvent d'ailleurs, qui comporte de bons éléments, mais qui comporte des éléments un peu inquiétants. Ceci étant, un élément positif, c'est que la communauté intellectuelle, l'intelligentsia lituanienne, est de plus en plus réactive et vigilante. Ce n'était pas du tout le cas il y a quelques années. Maintenant, ça bouge à chaque fois. Et ça, c'est un élément positif.
Ça, vous le sentez très bien avec vos interlocuteurs sur place, et en particulier les étudiants.
Je le sens extrêmement bien. Il y a maintenant.
Vous côtoyez.
L'un des principaux intellectuels médiatiques lituaniens est Leonidas Donskis, qui est un universitaire, député européen, et qui est juif, et qui est très vigilant et remarquablement intelligent, et très, très écouté et reconnu.
Alors on revient, si vous voulez bien, donc à l'Europe et ses minorités. Donc vous dites que c'est une évolution qui s'impose dans le contexte nouveau d'un affaiblissement historique des États-nations européens. Et en fait, on peut dire que pendant des années, ces États ont renforcé leur pouvoir centralisateur. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Est-ce que ça a favorisé effectivement l'émergence de poussée des minorités nationales?
Oui, dans une certaine mesure, bien sûr. Les États-nations ont un peu perdu de leur superbe. Si vous prenez l'État belge qui a été, après sa création, dans les années 1830, un État unitaire francophone, eh bien, quand on voit où il en est à l'heure actuelle, on voit le chemin parcouru. Et c'est le cas de la plupart des États-nations, ou même nationaux, distinction, en Europe. Les minorités partout se sont réveillées, se sont imposées. C'est parfois excellent, c'est parfois moins bon. Là aussi, il y a entre la padanie, et phénomène égoïste et artificiel, et au contraire, une saine émulation patriotique de certains groupes, il y a un monde.
Oui. Cette question qui me vient quand même, est-ce que, au fond, le recul que l'on observe de l'opinion publique face au pouvoir politique n'exacerbe pas, d'une certaine manière, effectivement, les poussées des minorités? Parce que, en fait, c'est un fait que l'on observe maintenant. Je veux dire que la perte de confiance dans l'homme politique, d'une manière générale.
Non, ça, c'était vrai. C'est vrai, il y a un rejet du politique institutionnel qui est extrêmement préoccupant à l'heure actuelle. On vote de moins en moins, le syndrome tous pourris, etc. Une certaine philosophie type Front National s'est répandue dans la population, et elle n'est pas seulement de ce côté-là d'ailleurs, donc c'est un petit peu inquiétant. Ça, je ne pense pas que c'est un effet très direct sur les minorités, parce que regardez les minorités territoriales de France, par exemple, leur score électoral reste absolument minime par rapport...
Il a beaucoup diminué sur ce qu'il était.
Plutôt. Donc non, je ne pense pas que c'est un effet direct. Je crois qu'au contraire, cette désaffection du politique frappe partout, tous azimuts.
Oui. Alors, bon, il y a minorité et minorité. Hein. Vous distinguez donc deux groupes, hein, les autochtones et puis les groupes d'immigrés, au fond.
Hein. C'est l'originalité de mon bouquin, parce qu'il n'a jamais été traité comme ça, du moins en français. Oui, effectivement, je considère qu'aujourd'hui, on ne peut plus parler de minorité en se contentant de parler des Sorabes, des Cachoubes ou des Catalans, et que les minorités issues de l'immigration, les Roms, les Antillais, etc., même s'ils sont citoyens français, sont effectivement des minorités, et que ces minorités, il faut les examiner, il faut sans doute leur donner des droits, mais c'est l'un des objets du livre, il ne faut pas donner les mêmes droits à tout le monde, à mon sens.
Expliquez-vous encore.
Eh bien, on a développé depuis maintenant, essentiellement le Conseil de l'Europe,
oui.
D'autres institutions européennes aussi, l'Union européenne dans certaines mesures, tout un corpus de droits des minorités, dans certains cas des fédéralisations, je pense comme les îles d'Hollande en Finlande, comme le Tyrol du Sud en Italie, etc. Et je pense que si on donnait aux minorités issues de l'immigration exactement les mêmes droits, ça entraînerait, étant donné leur nature, étant donné leur appartenance externe, tamoul, etc., ça risquerait de donner des situations explosives qui auraient d'abord pour effet de discréditer les droits des minorités autochtones, et deuxièmement peut-être de mettre une pagaille intense au sein de l'Europe qui n'en a pas besoin. Donc je crois qu'il faut, et ça je suis très ferme là-dessus, je crois qu'il faut qu'il y ait un socle commun à toutes les minorités, un socle civique commun à toutes les minorités. Il faut qu'il y ait un certain nombre de droits partagés, mais il ne faut pas que les minorités issues de l'immigration, et surtout celles qui n'ont pas la citoyenneté de l'État de référence, n'aient pas exactement les mêmes droits.
Henri Battener, je vois que tu écoutes attentivement Yves Placéro.
Bien sûr.
Toi, ton observation, parce qu'il faut dire que Henri, il est aux commandes du Farben depuis aussi des décennies, et oui. Il organise très régulièrement des conférences qui sont très éclectiques du reste, hein, très ouvertes. Ton observation sur ta communauté du Farben concernant précisément leur relation à l'identité et surtout par rapport au fait politique dont je parlais tout à l'heure. Comment tu le perçois,
moi, ça ? Moi, je perçois ça différemment, puisque c'est la communauté juive. Hein, la communauté juive, il faut se rappeler qu'avant la guerre, il y avait d'une part les juifs et d'autre part les israélites dans notre communauté. Bien. Or, les israélites, peut-être de bons français depuis fort longtemps, totalement intégrés, et les juifs, maintenant, sont totalement intégrés. Ils ne se considèrent plus comme une minorité, ils ne veulent pas être une minorité. Ils se considèrent comme des Français, même quelquefois avec l'accent. Bon, il faut rappeler quand même que nos parents venaient en chantant la Marseillaise en yiddish, nos grands-parents, donc ils étaient déjà Français avant d'être arrivés. Donc ils ne veulent pas être considérés comme une minorité, tout en étant effectivement quand même une communauté, mais pas une minorité.
Yves Placéro.
Oui, bien sûr, je suis d'accord, mais je ferai une nuance. En France, l'une des militances des groupes minoritaires, c'est les langues. C'est la langue. Moi, j'étais encore ce week-end dernier en Alsace au conseil régional pour une conférence sur ce sujet. Eh bien, dans ce domaine, le judéo-espagnol, le judéo-arabe, le yiddish se battent sur le même terrain avec les mêmes armes et aux côtés du catalan, du breton, etc. Donc, à cet égard, il y a une connexité, une collégialité, si vous voulez, entre les langues diasporiques et les langues territoriales. Ah,
tout à fait, là je vous suis totalement. Sur ce plan-là, oui, effectivement. Mais c'est le sentiment général, l'homme. La langue est une chose, les racines sont une chose, mais le fond humain fait que nous nous sentons totalement intégrés et voilà, c'est là le petit problème.
Oui, mais je dirais que c'est pas tellement différent pour les Bretons. Ou pour les Flamands, ils sont quand même intégrés aussi.
Avec une différence, c'est qu'il y a quelques années, les Bretons voulaient une autonomie bretonne, tout au moins certains. Les Corses veulent encore quelques-uns leur autonomie, les Basques pareil. Donc c'est encore un peu différent.
C'est vrai, mais ça ne concerne pas la majorité pour l'instant.
C'est fait, heureusement.
Oui, et du reste, alors, dans votre ouvrage, page 67, vous abordez le problème français, le jacobinisme en question, les minorités autochtones, l'exception française, et c'est vrai que le rôle des Juifs est plutôt discret dans l'ouvrage.
Mais oui, parce que, comme vient de le dire notre ami
Henri Battner,
les Juifs, en France au moins, ne se considèrent pas comme une minorité. Donc, étant donné que je ne veux pas catégoriser les gens indépendamment de leur volonté, vous voyez ce que je veux dire.
Oui, absolument.
Voilà, point. Oui. Ceci étant, il y a des endroits où les Juifs revendiquent une identité minoritaire. C'est le cas en particulier en Ukraine. En Hongrie, non, mais en Ukraine, oui.
Oui. J'ai quelque part des origines hongroises. Donc, et je ne comprends pas d'ailleurs cette différence entre Ukraine et Hongrie. Mais la Hongrie, l'antisémitisme devrait favoriser la minoritarisation, je vais dire, je ne sais pas si le mot existe, mais enfin, de la communauté juive, comme en Ukraine. Parce que l'antisémitisme existe encore fortement dans ces pays-là. Donc ça repousse, ça ghettoïse.
La question intéressante, c'est pourquoi cette différence ? Eh bien, je crois qu'elle tient tout simplement à la culture politique qui s'est développée en Hongrie à partir de la révolution de 1840, et qui était un peu à la française. La citoyenneté, les Juifs se sont voulus citoyens hongrois très tôt, et ont été, tandis qu'en Ukraine, c'est la tradition russe de la nationalité qui a dominé, et on s'est revendiqué ruthène, ukrainien, russe ou juif.
Oui, effectivement.
Et c'est des gens comme Simon Dubnov, ils l'ont très bien exprimé. Donc, si, c'est clair.
Effectivement. Et d'ailleurs, il y a même à voir, les juifs hongrois ne parlent pas yiddish alors qu'ils parlaient le yiddish à une époque.
Oui, il y a longtemps.
Il y a longtemps.
Ils ont parlé allemand, puis hongrois. Voilà. Ils ont yiddish, puis allemand, puis hongrois. Alors que les juifs d'Ukraine parlaient tous yiddish jusqu'à récemment. Maintenant, ils parlent surtout russe.
Ah oui, par obligation déjà, parce que c'était la langue commune de tout le monde. Obligatoire.
C'était la langue dominante.
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 Alors, si on vient à la table des matières, d'abord, si je cite tous les chapitres, on finira l'émission. C'est pas la peine. Non, mais c'est fou. Vous avez une recherche absolument incroyable, quoi.
Mais je travaille
à l'ouest, à l'est.
Depuis 50 ans.
Ah, voilà. Il me semble que c'est vraiment un livre qui est un aboutissement.
Et je connais.
Alors justement, quel est
endroits.
Yves Placero, quel est dans cette recherche, la part qui a été la plus difficile pour vous à travailler, quel a été vraiment l'aspect le plus difficile? Parce que en fait, vous présentez là, je dirais, toute une cartographie et même une radioscopie de l'Europe des minorités, et je dois dire que ça n'a certainement pas été facile, ça n'a pas été un long fleuve tranquille.
Non. Le plus difficile, ça a sans doute été les chapitres concernant les Roms.
Ah oui.
Parce que c'est extrêmement complexe, c'est souvent contradictoire, et trouver un fil directeur honnête et clair n'est pas facile. Et puis il y a eu des choses très compliquées, en particulier pour la Voïvodine, cette province occidentale de la Serbie, ou le consocio-nationalisme en Macédoine. Ce sont des notions assez complexes que j'ai essayé d'expliquer. J'ai essayé, mais c'était un bouquin qui a un peu vocation universitaire, donc un peu pédagogique, donc il ne fallait pas qu'il soit trop gros non plus. Donc j'ai dû effectivement me donner...
En tous les cas, il est à recommander pour tous les étudiants en sciences politiques.
Oui, oui, j'espère...
Déjà
pas... Oui, mais j'espère pas seulement, parce que je crois que ça donne une idée quand même assez claire de la
situation. Oui, non, c'est vrai.
De cette espèce de morcellement en bien et en mauvais de l'Europe aujourd'hui.
Et alors, vous pointez quelque chose de très, très intéressant, et ce dont on parlait à l'instant, c'est que vous parlez du paradoxe d'une identité qui triomphe en s'effaçant, évidemment en faisant le rapport avec la langue. Quand la langue disparaît, les minorités revendiquent encore plus d'identité.
C'est vrai pour presque toutes les minorités. C'est
toi, tu l'as remarqué aussi.
Oui, oui.
Et encore, on a de la chance, je veux dire, le yiddish revit.
On revit grâce à ça.
Grâce au Lubavitch.
Entre autres.
Bon, non, mais il faut saluer aussi bon, tous ceux qui s'occupent de donner des cours dans Paris. Et Dieu sait s'il y en a.
Hein. Nous, au Farbante, on n'en donne pas. Il y en a suffisamment qui en donnent, donc on n'a pas voulu...
Surtout le grand talentueux Yitzhak Nivorski, absolument.
Oui, pour revenir un instant sur cette formule, c'est particulièrement vrai pour les Juifs. Il y a quelques générations encore, tous les Juifs avaient comme langue... Mameloschen pour le yiddish, mais l'équivalent pour les autres langues juives. Aujourd'hui, l'identité juive s'affiche beaucoup, mais en matière de langue, ils sont tous francophones en France ou anglophones aux États-Unis. Et quand le retour du yiddish ne concerne encore, malheureusement, qu'un nombre, un pourcentage limité, mais c'est vrai que c'est encourageant.
Ça n'est pas la langue de tous les jours, malheureusement. Ouais. Encore.
Henri, tu dois avoir certainement le même souvenir que moi. On est dans le métro, et puis il y a un homme qui est là et qui étale son journal en yiddish en plein dans le métro. Ça ne se voit plus depuis des années et des années. Tu as eu cette image là, tu l'as en tête aussi.
Voilà.
Incroyable. Nayer Presse.
Voilà. La Stimme pour nous. Pour moi, c'était plutôt la Stimme. Mais ceci étant, il y avait. Je me souviens, dans les kiosques à journaux.
On les voyait bien,
on voyait les journaux yiddish.
Et puis, on ne pouvait pas voir ces lettres hébraïques, parce que c'est des lettres hébraïques, le yiddish, sans vraiment un petit pincement au cœur de...
C'est évident.
Ce petit pincement de bonheur de voir ça. Ouais, absolument.
Même pour moi qui ne lis pas bien le yiddish, rien que de les voir, ça me...
Voilà, ça nous donnait une certaine émotion.
Bien sûr, c'est normal, surtout après-guerre.
Alors, on revient juste à Henri Mattner. Bon, le 19, c'est bientôt, c'est le prix Corman.
Ah voilà, c'est le prix Yiddish Corman dont je ne t'avais pas prévenu, donc tu n'as pas pu en parler avant.
Non,
voilà,
tu en parles ce soir. Donc, voilà. C'est Ariel Sion
qui l'a obtenu, et Erez Levy,
et ben, Mazel Tov,
qui est du Centre MEDEM, qui travaille au MEDEM. Donc, et Ariel Sion, qui est une de tes collègues d'une autre radio.
Absolument.
Voilà,
donc, voilà, tout à fait. Et le 23, deux jours après, alors c'est la journée des associations.
Oui, la journée des associations qui est à l'origine, et ça je me tue à le répéter constamment, qui est à l'origine du Festival des Cultures Juives. Puisque nous avons 10 ans pour la journée des associations, qui s'appelait à l'origine la journée du Yiddishland.
Exactement.
Voilà, le Yiddishland.
Alors ça va se passer donc le dimanche.
Le dimanche 23. Tout près du mémorial, pas très loin, tout au moins.
Place Baudoyer, non ?
Place Baudoyer, mairie du 4e. Et on attend beaucoup de monde. C'est certainement la manifestation du festival qui reçoit le plus de monde. Puisque nous avons un turnover suivant, qu'il fasse beau ou pas, de 3000 à 5 à 6000 personnes quand il fait beau. Dans cet après-midi. Donc,
voilà. Et on peut dire, alors, puisqu'on parle du yiddish, que beaucoup de ces associations donc, ont une émanation yiddish, historiquement parlant.
Nous avons, d'ailleurs, petite chose quand même, nous avons changé le nom de cette journée en journée des associations pour y intégrer les associations séfarades. Elles ne se pressent pas nombreuses à cette manifestation. Mais il y en a quelques-unes et ça nous fait plaisir.
Alors justement, à ce propos, Yves Placereau, vous qui connaissez bien les choses, qu'est-ce qui reste aujourd'hui comme noyau de judéo-espagnol en Europe, je dirais, orientale, en Europe centrale aussi ?
Oh, je dirais rien.
Rien. Il y avait en Bulgarie, par exemple.
Bien sûr, le espagnol.
Oui, oui.
Il y a bien sûr, quand on regarde à la loupe, on en trouve toujours.
Quelques vieilles personnes.
Mais voilà. Mais dans l'ensemble, c'est pratiquement fini. Ne serait-ce que parce qu'une grande partie de ces gens ont émigré après 1991. Soit ils ont fait leur alia, soit ils sont partis vers les États-Unis. Ce qui fait que le noyau qui reste, c'est des personnes âgées. Effectivement, dans toute la partie balkanique de l'Europe de l'Est, il y avait des gens qui avaient...
Absolument.
Des descendants de 1480.
Oui, d'Isabelle la Catholique.
Exactement. Alors, il y a un petit mouvement qui se dessine un peu partout de récupération de l'identité, mais pour l'instant, c'est encore ténu. Mm-hmm. Mais bon, c'est à voir. Il faut surveiller. Il faut surveiller et certainement, il faut les aider.
En tout cas, en France, ça marche pas mal. Ça marche
oui,
pas
mais bien. Justement, alors on parlait du disque, mais il y a un renouveau.
Voilà, hein. Là aussi. Aquí estamos, par Aquí exemple, estamos, que je connais bien. El Siete.
El Siete, bien sûr.
Voilà, il y a deux, trois grandes associations.
Autour du rabbin
j'étais
Daniel
secrétaire
Fari.
Général de la jeunesse séfarade quand j'étais jeune.
Ah bon?
Il y a qu'Ashkenaz. Voilà.
Ah oui, mais comment tu t'es retrouvé là alors?
Ça remonte aux années 57, 58. J'étais pas si jeune que ça, mais enfin, comme je parais toujours un peu plus jeune que mon âge, donc j'étais secrétaire général des jeunes.
Je confirme.
Et donc, je me suis retrouvé, il y avait Rue Blanche, l'Union d'Israélites Séfardites de France, qui existait encore, et la majorité de ceux qui y venaient étaient, malheureusement à cause de la guerre, des Ashkenazes. Et Victor Benveniste, que tu as peut-être connu, Victor Benveniste.
Le nom, oui.
Un jour, je discute avec lui, et nous étions en public, là, il y avait beaucoup de monde. Il m'a appâté quelque part, il m'a piégé, et on a discuté, puis à la fin de la discussion, on était une trentaine de personnes, vous avez carte blanche.
Voilà. Tu gardes un bon souvenir.
Ah, un excellent souvenir, ouais. et ma belle famille était séfarade. Ouais.
Alors il faut saluer Henri Bettner, parce que maintenant je salue... Il vient d'être nommé chevalier dans l'Ordre national du mérite. On peut le dire, puisque en fait, c'est paru au journal officiel.
Mais ça n'est pas encore légalisé.
Ah, bon.
Ah, et oui.
Il n'a pas le ruban bleu.
Il n'a pas le ruban bleu encore.
Bon, en tous les cas, je pense qu'on sera autour de toi le jour où tu
seras
décoré. Et c'est bien mérité. Alors, il nous reste à parler également de ce qui te tient à cœur depuis longtemps. C'est sauvegarde des mémoires, Norbert Dana. Et Dieu sait si vraiment tu œuvres pour que... la mémoire perdure au sein de la communauté et en particulier à Bagneux.
Voilà, j'ai eu un excellent modèle, oui. C'est Norbert Dana,
oui.
Dont tout le monde ne peut que saluer la mémoire. Bien voilà, nous avons pratiquement réglé tous les problèmes. Avec le cimetière parisien, tout s'arrange bien. On a de bons rapports depuis la signature de la charte avec Anne Hidalgo. Mais nous avons aujourd'hui un nouveau problème. Un problème pour les mutuelles. Savoir que les mutuelles étaient gérées par la DRAS, Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales, jusqu'en 2010. Depuis 2010, les DRAS ont disparu. Et notre problème, c'est de faire légaliser tous les événements des mutuelles, puisque nous naviguons dans un flou artistique au ministère de la Santé. Personne ne veut s'en occuper. Donc, mon travail aujourd'hui, c'est d'essayer de trouver la personne adéquate qui prend le relais pour légaliser ces mutuelles, de façon à ce qu'elles puissent ouvrir un compte bancaire, le travailler, changer de... C'est un problème, parce que personne ne répond.
En tous les cas, tu le sais, on suit attentivement la lutte que tu mènes, et puis, comme tu as beaucoup d'abnégation, tu devrais finalement avoir gain de cause.
On y arrivera.
On va y arriver.
Moi ou quelqu'un après moi, mais on y arrivera.
Toi jusqu'à 120, 120 ans, 140. Même.
140, pourquoi pas.
Exactement.
Plus TVA.
Voilà. Alors, je reviens à Yves Placero, parce que, en fait, je crois que la conclusion, après cette longue recherche, très complexe, mais en même temps qui se lit, on peut dire, vraiment très facilement également, eh bien, je vous laisse la parole, puisque vous dites... En effet, si la crise systémique s'amplifie comme cela paraît devoir être le cas, si les crispations ethniques prennent de l'ampleur, on peut redouter une déstabilisation croissante de nos sociétés, et ce risque se trouve encore majoré par le fait que les résidents européens, la déprime économique s'approfondissant, sont de plus en plus nombreux à écouter les sirènes du populisme, de l'hétérophobie et du racisme. Omnibulés par des détestations sectorielles, Islam, Rome, ils sont trop souvent les derniers à reconnaître les mérites des institutions européennes et à faire de réels efforts pour les défendre. Par ailleurs, certaines franges des populations musulmanes d'Europe recèlent hélas, en lien avec certains pays islamiques, un fort potentiel de haine et partant de dangerosité. Donc vous dites les choses. Et je dirais que c'est votre conclusion après ce long parcours depuis des années. C'est la raison pour laquelle je disais qu'au fond, il y a quand même une sorte de... J'ai envie de dire de quasi-menace pour l'avenir, encore une fois, avec, en toile de fond, la crise économique également, avec effectivement la résurgence, le risque de résurgence de la xénophobie, du racisme, etc.
Le pire dans ce domaine n'est pas sûr. C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de la montée des eaux, parce que ça, malheureusement, c'est sûr. En ce qui concerne notamment le problème du fondamentalisme islamique violent, c'est un problème, c'est une menace réelle, mais je crois qu'elle est quand même relativement gérée au niveau des institutions, etc. Donc ça, je dirais que ça devrait pouvoir être contenu. Ce qui est plus gênant, à mon avis, c'est la montée des haines infranationales, c'est-à-dire la détestation de l'islam et parfois des musulmans, qui sont en train de se répandre dans toute une partie de la population française, juive compris. Et ça recèle bien des menaces. Mmh. Ça m'embête beaucoup. Mmh. Parce que dans un contexte de crise économique, d'angoisse existentielle à divers titres, tout ça peut déraper très facilement. D'ailleurs, on en a déjà vu quelques cas ces derniers temps. Hein. Donc... politique, oui. Ethnicité, tout ça peut se mêler pour faire des drames.
Yves Placero, une question brutale. Comment vous avez vécu, vous qui avez tellement travaillé autour de l'identité des minorités, etc., qui connaissez bien l'histoire européenne, etc., comment vous avez vécu les crimes de Toulouse?
Je dirais comme tout le monde, avec beaucoup de peine et d'effroi. Mmh. De peine et d'effroi parce que... qu'on puisse... tout était effroyable là-dedans. Qu'on puisse tuer des juifs pour leur identité juive en France en plein 21e siècle, mmh. une chose épouvantable. Que l'assassin ait été musulman, qu'il se soit attaqué à des militaires à la fois musulmans et d'outre-mer, et les réactions que ça a provoquées dans une partie de la population française, disons que tout était épouvantable. Où qu'on regarde, c'était épouvantable. Par conséquent, ça m'a fait, comme à tout le monde, un effet de révulsion effrayante. Mais il y avait peut-être parfois quand même quelques éléments encourageants. J'ai eu l'impression que la population réagissait souvent avec solidarité. Donc tout n'est pas noir.
Même chez des musulmans.
Mais absolument. Il faut
l'appuyer. Sauf que le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a des musulmans qui se réfèrent encore à cet acte et qui en sont satisfaits et qui le glorifient. Alors, donc,
mais
ça,
il
c'est
y a
grave.
Toujours des fous. Regardez ce Barouche qui avait assassiné toute une série.
Alors, vous avez tout à fait raison. Sauf que il y a une grande différence. C'est que les juifs sont, dans le monde, au grand maximum 16 millions. Donc le pourcentage qui est le même de dingue chez les juifs que chez les...
Il voit ça à la hausse aussi. Est-ce que c'est tant que ça?
Pardon?
C'était pas...
De toute façon, non, c'est, de toute façon, 15... c'est pas beaucoup.
Non, c'est pas beaucoup. Voilà. Oui. Sauf que quand on a un pourcentage de fous qui existe à la même proportion dans toutes les populations, oui. Alors quand on compte le demi-milliard de musulmans, et les quelques millions de juifs, la proportion fait que on a moins de fous, nous, qu'il peut y en avoir en islam. C'est uniquement une question de proportion, tout simplement.
En tous les cas, non, mais toi, au niveau du Farbent, et tu l'as vu avec les fidèles du Farbent, je crois que, en fait, la blessure est là, quoi. Je veux dire,
oui,
on a du mal à se remettre.
On a du mal, on le ressent comme... Vous savez,
oui.
Comme c'est nos propres enfants, c'est direct, si vous voulez. Moi, ce sont mes petits-enfants qui ont disparu. Surtout la manière dont il l'a fait. La manière dont il l'a fait.
Il faut voir aussi la dignité des familles, quoi. Absolument. Ça a été, quand on a vu ce qui s'est passé, l'hommage qui a été rendu, et la dignité du père, la dignité de la femme, c'est une leçon absolument incroyable.
On peut aussi le replacer dans un contexte international. Regardez ce qui se passe régulièrement aux États-Unis. Il y a une tendance à une sorte de violence démentielle qui est peut-être plus généralement sociétale que liée à des questions ethniques.
L'émission touche à sa fin. Voilà, je voudrais rappeler le titre de ce beau livre, « L'Europe et ses minorités », donc publié aux presses universitaires de Grenoble dans la collection Europa. Et puis, mon cher Henri, de donner rendez-vous déjà le 23 juin.
Le 23, voilà. Place Baudoyer, je le rappelle.
Et puis, on refera un point, quelques temps après la rentrée, autour de sauvegarde et mémoire, Norbert Dana, puisqu'on suit la question de très près. Chers amis, merci, à mercredi prochain.